Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux parce que le jour de la Pâque, c'est aussi la manifestation de la grâce suprême de Jésus. Lorsqu'il vient, il meurt sur la croix et 3 jours après, il ressuscite. Et ça nous donne une espérance extraordinaire. Et donc, ce matin, on va parler bien sûr de la résurrection. Et donc, on arrive à cette question qui est derrière moi. Quelle preuve serait nécessaire pour te convaincre que Dieu existe ? Je ne sais pas si vous êtes là en tant que chrétien convaincu ce matin, ou si vous êtes là juste par tradition, parce que c'est Pâques, vous pénétrez dans une église et vous vous dites « Tiens, là, je vais peut-être apprendre des choses ce matin. » Et peut-être que vous n'êtes pas encore convaincu que Dieu existe. Eh bien, c'est le parfait message ce matin pour avoir des convictions. Il y a un homme qui s'appelle Nick Pollard. Est-ce que j'ai pas la main ? Si tu peux me la donner, ce serait super. Nick Pollard, donc c'est un pasteur qui travaillait parmi les étudiants universitaires. Et donc, il a posé cette question à des étudiants. Et donc, il arrive, il est dans une assemblée, donc imaginez un amphithéâtre, et il pose cette question. Et là, il y en a un qui lève le doigt et qui dit « Moi, j'ai une réponse. Je croirais seulement si Dieu se montrait en chair et en os, s'il venait ici devant moi. » Et donc, Nick Pollard, il va réagir à cette première réflexion et va dire « Ok, très bien, imaginons qu'un homme franchisse la porte ici, juste derrière vous, et qu'il affirme être Dieu. Est-ce que vous le croiriez ?» Honnêtement, ben non. On en connaît des fous qui se sont pris pour Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un affirme être Dieu là devant nous qu'il est Dieu. Et donc, bien sûr, les étudiants ont réagi. Ils ont dit, bah, évidemment, il y a beaucoup de fous qui ont dit qu'ils pensaient être Dieu. Et donc, Nick, il leur fait une suggestion. J'ai dit, ok, vous avez raison. C'est pas parce qu'on rencontre une personne qui affirme être Dieu que c'est le cas. Mais alors, qu'est-ce qu'il devrait faire pour prouver qu'il est Dieu ? Et là, il se mira à réfléchir en groupe. Et puis, il y en a un qui a émergé, qui a dit la chose suivante. Il dit, ben, il faudrait qu'il fasse quelque chose de miraculeux pour montrer son pouvoir. Par exemple, transformer cette canette de coca en whisky. En whisky. D'accord. Et il y a une étudiante qui réagit et qui dit, mais non, ça ne serait pas valable parce que ça pourrait être aussi un magicien. Et effectivement, c'était assez pertinent parce que c'est pas parce qu'on fait un soi-disant miracle. David Copperfield, il est aussi assez impressionnant. Si vous avez regardé des émissions de plusieurs, entre guillemets, magiciens, ça prouve pas qu'il est Dieu. Et donc, Nick, il va continuer à leur poser des questions et à les faire réfléchir sur les preuves. Et finalement, il y en a un qui va donner une réponse et ils disent, ok, si une personne affirme être Dieu, on peut supposer qu'elle est immortelle. Ils se sont dit, ok, s'il est Dieu, alors on va essayer de le tuer, et normalement, s'il est immortel, on ne va pas y arriver. Et là, il y a Nick qui répond, il dit, ok, pourquoi pas, c'est une très bonne idée, mais est-ce que cela ne pourrait-il pas être simplement dû à notre incapacité de le tuer et non à son immortalité ? Ne vaudrait-il pas mieux le tuer et constater sa mort pendant plusieurs jours, puis le voir ensuite revenir à la vie ? Et tout à fait, répondirent-ils. De cette manière, on serait fixé. Et Nick leur répondit, très bien, tâchons d'être clairs. Vous êtes en train de dire que vous croiriez en Dieu uniquement s'il apparaît sur terre, qu'il prétend être Dieu, qu'il accomplit quelques miracles avant d'être tué et de revenir à la vie quelques jours plus tard. Et en écoutant le résumé, les étudiants, ils ont réalisé qu'ils étaient en train de décrire la vie de Jésus. Nick Pollard, il ne s'est pas arrêté là, et il est allé dans un autre milieu avec des ados de 14 à 15 ans. Et bien, figurez-vous que les ados étaient encore plus perspicaces, et eux, ils ont demandé plus d'exigences. Donc, ils ont demandé quasiment les mêmes choses, mais ils ont un peu tiqué au moment la personne qui disait être Dieu était morte. Et voilà ce qu'ils ont dit. Mais cet homme pourrait très bien avoir un frère jumeau et pourrait prendre son identité. Si vous venez du milieu musulman, c'est un petit peu l'argument qu'ils utilisent. Et bien, Nick leur répond, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contourner ce problème ? Et il leur suggère, mais si on l'enfermait dans un placard, est-ce que ça pourrait pas le faire ? Et il y en a un qui dit, non, son frère jumeau pourrait très bien le sortir du placard. OK, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que son frère jumeau vienne le prendre ? Eh bien, il y en a un qui propose, eh bien, c'est simple, il suffirait de prendre des gens du gang rival et de le mettre devant la porte. Et là, comme ça, on est sûr qu'il n'y a personne qui viendrait prendre le corps. Et là, vous voyez où je veux en venir. C'est que tous ces éléments, tous ces arguments qui prouveraient, qui seraient assez convaincants pour prouver que Dieu est bien vivant, qu'il existe, eh bien, finalement, tous ces arguments-là se trouvent dans l'Évangile, tout simplement. Ils sont rassemblés dans la Bible. Tout ce qu'on vient de décrire ici, ce sont quasiment, alors à la différence que c'était un tombeau et pas un placard, mais Jésus a été aussi enfermé, et puis on a placé des gardes devant le tombeau. Et donc, des gens du gang rival, ce n'étaient pas des amis de Jésus qu'on a mis devant. Parce que là, il aurait pu encore avoir, il aurait pu avoir de la discussion. Mais non, là, on a mis des gens qui, lorsqu'on a découvert que Christ était ressuscité, ils sont tous morts. Parce qu'ils avaient eu une consigne et elle n'a pas été respectée. Et donc, ça leur a coûté cher. Aujourd'hui, mes amis, on fête Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité des morts, eh bien cette fête, elle n'a absolument aucun sens pour vous. Au mieux, vous appréciez Pâques parce que c'est l'occasion de manger du bon chocolat. Au pire, c'est une fête qui vous ennuie et peut potentiellement même vous déclencher une crise de foi. Par contre, si vous croyez que Jésus est vraiment ressuscité, alors ça peut changer votre vie. Ça ne marche pas ce matin, je ne sais pas si c'est les piles, mais c'est le titre du message qui devrait s'afficher ici. Si Pâques, si vous croyez que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité des morts, alors ça peut changer votre vie, ça peut changer ta vie. Pourquoi je dis ça ? Parce que la résurrection de Jésus est au cœur de l'Évangile. Ce n'est pas un fait banal de l'histoire. Elle est fondamentale. Et si on enlève la résurrection, mes amis, on n'a plus rien à faire dans cette salle. Ni vous, ni moi. Tout ce que j'ai consacré, toute la vie que je mène jusqu'à aujourd'hui ne sert à rien. Si Jésus n'est pas ressuscité, on peut rentrer chez nous en pleurant au lieu de se réjouir. J'aimerais ce matin, au travers d'un récit biblique qui se trouve dans l'Épître aux Corinthiens, qui a été écrit par un des plus féroces détracteurs du christianisme, quelqu'un qui persécutait les chrétiens et qui a été retourné comme une crêpe parce qu'il a rencontré le Christ ressuscité. Et ce matin, j'aimerais relever au travers de ce texte trois certitudes. Ouais, s'il te plaît. Si tu peux avancer, merci. Trois certitudes que procure la résurrection de Christ. Vous êtes prêts ? On va lire avec moi, vous pouvez prendre vos Bibles si vous le voulez, sinon ça sera affiché ici. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et on va lire les 19 premiers versets. C'est un long chapitre, on ne lira que ce début. Merci beaucoup. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que nous... Pardon. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine, et on n'a plus rien à faire dans cette salle. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Fin de la lecture de la Bible. 100% inspiré jusqu'ici. Maintenant, mettez vos écoutilles et vos radars, parce que je pourrais dire des bêtises. Je prie la semaine, j'étudie le texte, mais je ne suis jamais à l'abri. Et donc, c'est pour ça que je vous donne cette responsabilité de toujours rester en veille. D'accord ? On va reprendre ce texte et donc ces trois quoi ? Allez. J'ai dit que j'allais faire trois quelque chose. Trois preuves. Trois quoi ? Trois certitudes que procure la résurrection. Je voulais voir si vous suiviez, mais apparemment, vous avez la mémoire courte. Premier point, sans résurrection, mes amis, pas de salut. Pas de salut. Regardez ce que dit Paul, on reprend le texte. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés. » Ok ? Et dans ce message-là est inclus la résurrection, la mort et la résurrection. On va le voir juste après. Mais vous avez remarqué ici, je l'ai surligné en jaune, il y a un petit « si ». Est-ce que l'apôtre Paul serait en train de mettre en doute ou de nous faire douter sur notre salut ? Hein ? Si ! Vous êtes sauvés, si ! Mais moi, on m'a toujours dit qu'on était sauvés par grâce, ce n'était pas conditionnel, parce que tout dépendait de Jésus. Mais là, il dit « si ». Alors, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il est en train de dire qu'on peut perdre notre salut ? Non, pas du tout ça. En fait, ici, il est en train de dire que si vous avez compris l'Évangile comme il a été décrit, d'accord ? Comme c'est stipulé dans le contrat de l'Évangile. Parce que l'Évangile, ici, on le voit, c'est une alliance. Une alliance, c'est quoi ? C'est un contrat qui est fait avec, entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'on dit que c'est une alliance, parce que Dieu, il ratifie le contrat. Et dans le contrat, il y a des petites lignes et des alinéas, d'accord ? Et il y en a un, c'est qu'il nous garantit la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si nous plaçons notre confiance en Jésus, il nous dit qu'il nous gardera jusqu'au bout. Pas quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que personne ne pourra nous ravir de sa main. Personne. Que rien ne pourra nous arracher à son amour. Rien. Même notre péché. Par contre, donc il nous garantit que lui nous tient dans la main et qu'il ne nous lâchera jamais. Mais rien nous dit que nous, on ne lâchera pas sa main. Lui, il dit qu'il nous lâchera jamais notre main. Mais nous, on peut lâcher la sienne, vous voyez ? Mais il va nous rattraper, ne vous inquiétez pas. En fait, il y a des contrats. Et il y en a qui déforment le contrat. Jésus nous garantit l'éternité pour notre âme, les amis. Il sauve notre âme. Il est venu pour sauver notre âme, pour qu'on passe l'éternité en sa présence. Il est venu nous arracher de notre destinée qui était l'éternité loin de sa présence. La Bible appelle ça l'enfer. On était tous destinés dans cette direction, tous, sans exception. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et donc, on allait tous dans cette direction. Et Jésus est venu pour mourir, pour nous arracher à cette destinée, pour nous faire changer de direction, pour aller vers lui, en fait. Ça, c'est dans le contrat. Mais Jésus n'a jamais dit qu'on ne serait pas éprouvé, par exemple. Ça ne fait pas partie des promesses, au contraire. Relisez Marc chapitre 10, on a la plus belle promesse du Nouveau Testament. Il n'y a personne qui est abandonné pour moi et qui ait perdu son père, sa mère et qui retrouve au centuple ici des frères, des pères, des mères, des terres. Et là on se dit waouh, c'est génial. Oui, on a des pères, des mères spirituelles aujourd'hui. Peut-être que quand on se tournait vers l'Évangile, c'était chez les Juifs, mais aujourd'hui c'est encore le cas, et aussi chez les musulmans et chez d'autres, dans d'autres dictatures, on va dire, eh bien, on est rejeté de sa famille. Et l'Église est le lieu d'accueil où on va retrouver ses pères, ses mères, ses frères et ses sœurs, et c'est ce que nous sommes. Peut-être c'est ce que vous êtes. Vous avez peut-être été rejeté par votre famille parce que vous avez suivi Jésus. Mais regardez bien la fin de Marc chapitre 10. Avec tout ce package, il est marqué « et des persécutions ». Ça, c'est dans les lignes du contrat. Vous savez, il y a peu de temps, à la maison, j'étais en train de faire la vaisselle, et puis à un moment donné, j'ai poussé un petit peu un des plats et qui a poussé une bouteille qui est tombée sur notre plaque vitro-céramique. Elle a explosé. Et alors là, j'étais complètement défait. Je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Et j'appelle mon épouse. Je lui dis, excuse-moi, mais voilà, j'ai cassé la vitre. Est-ce qu'on est couvert par l'assurance? Elle me dit, ah, t'inquiète, mon chéri, on est couvert par l'assurance. Alors qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'assurance. Et puis, on leur demande, est-ce qu'on est bien couvert par la casse sur l'électroménager? Il nous dit, oui, oui, tout à fait, ça fait partie. Sauf, sauf pour les parties vitrées. Qu'est-ce qui peut casser, à votre avis, sur l'électroménager, à part les parties vitrées? Donc, vous voyez, parfois, on pense être couvert, mais on ne l'est pas. C'est cette erreur que l'apôtre Paul voulait qu'on évite de faire. Vous êtes sauvés, les amis, vous suivez Jésus, si vous retenez les termes du contrat. Mais lisez tout. Lisez tout. Jésus ne vous a pas promis que vous serez riche et en bonne santé. Il a promis qu'il vous tiendrait, qu'il vous prendrait dès maintenant et qu'il vous amènerait au ciel avec lui. Ça, c'est extraordinaire. On sait qu'on arrivera au bout. Le colis va arriver, les amis. Par contre, on peut être un peu secoué dans le camion entre-temps. C'est ce qui va se passer. C'est notre vie. Et là, mes amis, on n'a pas de promesse. On n'a pas de promesse. On a la promesse que Jésus va prendre soin de nous, okay, qu'il va nous donner le nécessaire, qu'il nous donnera à manger, à boire, un toit, une maison. Il a promis qu'il nous donnerait le nécessaire. Ça, c'est une promesse, mais pas tout le reste. Voyez. Et donc, là, ici, l'apôtre Paul veut vraiment qu'on retienne qu'on peut être sauvé si on retient les termes du contrat, les amis. Et après, il va décrire ce qu'est l'Évangile. Regardez ce que dit le texte. « Je vous ai transmis, avant tout ce que j'avais aussi reçu, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Là, je vais faire quelques remarques. En fait, vous voyez ici, Jésus, il est au centre de l'Évangile. Ce n'est pas l'homme qui est au centre, c'est bien Jésus qui est au centre. Montrez-moi ici, d'après cet évangile-là, qu'est-ce que l'homme peut faire? Dites-moi, qu'est-ce que l'homme peut faire ici? Ça, c'est l'évangile. Rien. On peut rien faire, en fait. Tout est fait par Jésus. Est-ce que vous êtes mort pour vos péchés? C'est qui est mort à votre place? C'est ce que dit le texte. C'est Jésus qui est mort à votre place. Qui peut vous pardonner? C'est Jésus qui peut nous pardonner. Qui peut nous ressusciter? Seulement Jésus. On ne peut rien faire, mes amis. L'Évangile, ça montre notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Tout est là. Tout est là. Jésus est venu exprès mourir pour nous. Il est mort pour nos péchés, les amis. C'était volontaire. Personne n'a forcé Jésus à le faire. Il avait une mission. Il est venu spécifiquement pour ça. Il est venu pour nous arracher de notre péché. Il est venu pour nous pardonner notre péché. Il est venu pour nous justifier. Et en plus, il va même plus loin. Romains chapitre 8, versets 29 et 30, dit qu'il nous a élus. Ensuite, qu'il nous a justifiés, donc déclarés justes. Ensuite, il nous a sanctifiés et même glorifiés. C'est-à-dire qu'il est là du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'on peut se reposer sur lui, parce que c'est lui qui a tout accompli, les amis. C'est pas génial, ça? Vous avez remarqué, il y a deux mots qui reviennent ici. L'Évangile, c'est pas une invention de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que tout ça, c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Regardez l'expression « selon les Écritures ». Mes amis, les déviances de l'Évangile, elles viennent quand on abandonne l'Écriture, quand le contrat n'est plus défini par la Bible, mais par nos propres interprétations ou parce qu'on va rajouter ou enlever, en fait, à ce message-là. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement, tellement de déformations. On s'est éloigné de l'Écriture et on a rajouté des éléments à cet Évangile. Pour le salut, je parle ici. Je ne veux pas faire un procès ici à l'Église catholique, ce n'est pas du tout mon but, parce qu'il y en a, je pourrais prendre des milliers d'exemples en dehors de l'Église catholique. Mais j'ai pris ceux-là parce qu'ils sont flagrants et parce qu'ils ont rajouté à l'Écriture des éléments. Si vous prenez le catéchisme de l'Église catholique, donc c'est le catéchisme officiel de l'Église catholique, voilà ce qu'il est écrit au paragraphe, enfin à l'article 846, page 227. Appuyez sur la Sainte Écriture et, regardez bien, et, on a rajouté, et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Et donc, on vient rajouter l'Église au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur. Et là, on dit, hop, hop, hop. Vous voyez déjà le mélange, là ? L'Église est nécessaire au salut, et là, seul Christ est médiateur. Alors, soit il est seul, soit ils sont deux. Vous voyez ? Ah, subtilité. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie du salut. Vous voyez le petit... Or, il devient présent en son corps qui est l'Église, donc indispensable. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'ils la seraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient pas être sauvés. Ça veut dire qu'ici, on a rajouté à l'Écriture une tradition, celle de l'appartenance et de la persévérance dans l'Église catholique romaine. Ce n'est pas dans l'Écriture, ça. Deuxième point, et je le souligne parce qu'il revient à chaque fois, j'étais à un enterrement récemment, et on a remis une couche sur le baptême. Qui sauve ? Le Seigneur lui-même, alors ça c'est paragraphe 1257, le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Et j'ai vérifié, il ne parle pas du baptême de l'Esprit, parce que là ce serait juste. Il parle bien du baptême d'eau, d'un rite, de quelque chose qu'on a fait avec nos mains. Mes amis, si vous faites quelque chose pour votre salut, alors vous pourrez le perdre. Si c'est Christ qui fait tout pour vous, alors vous ne pourrez pas perdre parce que vous ne l'avez pas pu le gagner. Vous n'êtes pas intervenu. Tu ne peux pas perdre ce que tu n'as pas gagné. Vous voyez l'importance ici des Écritures. Si on commence à rajouter quoi que ce soit, c'est là où on va douter. et discuter avec quelqu'un qui a cette compréhension, il n'est jamais sûr de son salut. Or, si je discute avec la plupart d'entre vous, peut-être pas tous, la plupart d'entre vous, vous savez où vous allez. Si vous avez un accident, si vous mourrez d'un AVC, là, à l'instant même, vous savez où vous allez. Est-ce que c'est vrai? Dites amen, les amis. Parce que ça, c'est une certitude qu'on a. Et cette certitude, elle est enracinée dans les Écritures. Ce n'est pas parce que Franck il l'a prêché, c'est parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Je peux lui faire confiance. C'est déjà dans les Écritures. C'était déjà dans l'Ancien Testament. Et ça l'est bien sûr confirmé dans le Nouveau Testament. Donc, sans résurrection, mes amis, pas de salut. Deuxième point que j'aimerais souligner, sans résurrection, pas de transformation. La religion n'a jamais transformé personne. Si on peut transformer une personne normale, pécheresse, en un petit légaliste, ça, c'est très facile à faire. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Et il a été vu par Céphas. Céphas, c'est Pierre, hein. Puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Les amis, la résurrection, c'est un fait parce qu'il y a des témoins. C'est un fait, ce n'est pas un mythe, parce qu'on a des témoins qui étaient vivants, qui l'ont vu et qui ont raconté ces choses. Moi, je vais m'appuyer seulement sur le témoignage des Écritures, mais il existe aussi des témoignages historiques. Flavius Joseph, mais ce n'est pas le seul. Des chroniqueurs de l'époque, des chroniqueurs juifs, même pas chrétiens. Bien sûr, des chroniqueurs, des apôtres et des écrivains chrétiens, on en a ribambelle. Mais ce ne serait pas juste parce qu'ils seraient déjà gagnés à la cause. Donc ici, je vais juste prendre le témoignage des Écritures. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Il a été vu par Pierre. Pierre. Et oui, Pierre, lui qui a renié Jésus. Au moment de son arrestation, Pierre, il est confronté à devoir prendre position. Et qu'est-ce que va faire Pierre? Trois fois de suite, il va renier qu'il ne connaît pas le monsieur qui est là-bas, qui va être flagellé et qui va être crucifié. Et il nie le reconnaître. Ce Pierre-là va se terrer comme un lapin. Il va se cacher. Il avait honte. Ce Pierre-là, celui qui était caché, qui avait honte, va prêcher à des foules et va risquer sa vie quelques semaines plus tard. Que s'est-il passé entre-temps? La résurrection. La résurrection. Ensuite, les 12. Et puis, regardez, il dit 500 frères à la fois. Et si on regarde les 500 frères à la fois, les femmes ont été, dans Matthieu 28, 10, les deux femmes, Jésus leur demande d'aller dire à leurs frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Allez dire aux frères en Galilée. Et c'est ce qui se passe. Mais les frères, c'est probablement tous ceux qui suivaient Jésus. Et à un moment donné, Jésus vient avant son ascension, et c'est probablement à ce moment-là qu'ils étaient au moins 500, vous voyez ? Et ils l'ont tous vu en même temps. Alors, bien sûr, il y en a qui disent « Oui, mais ça, c'est une hallucination collective. » Ah, ok. Peut-être pour les 500, mais regarde tous les témoignages des gens qui étaient autour. Et donc, ici, c'est pas valable. C'est pas valable. Ensuite, je vais vous donner quelques arguments juste après. Ensuite, il parle de Jacques. Jacques, c'était le demi-frère de Jésus ici, hein. Et Jacques était incrédule. Il est resté incrédule jusqu'à la résurrection. Mais jusque-là, ses frères ne le suivaient pas. Jacques va jouer un rôle essentiel dans la propagation du message de l'Évangile et dans l'Église de Jérusalem. Mais avant la résurrection, Jacques, on n'en entend pas parler parce qu'il était incroyant. Il était incroyant. Et enfin, il a été vu par tous les apôtres. Les apôtres l'ont vu avec leurs yeux, ils ont même mangé du poisson avec lui. Je vous lis ici le récit de Jean, chapitre 21, verset 13-14. Jésus s'approcha, donc ça c'est après la résurrection, hein. Il est resté 40 jours sur terre et à un moment donné, Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est le témoignage de Jean. un homme qui l'a vu aussi ressuscité. Il y en a d'autres qui ont même pu toucher Jésus. On ne sait pas s'il les a pris dans ses bras à ce moment-là, le texte ne le dit pas. Mais on sait que Thomas, à un moment donné, il a demandé de toucher. Et Jésus lui dit « Ok, vas-y, touche mes cicatrices ». Et il a touché son côté, ses mains. Et donc, ça ne peut pas être une hallucination. Une hallucination, ça ne touche pas tous les sens, vous voyez ? Et donc, c'est pour ça que c'est important de prendre tous ces récits. Et cette liste n'est pas exhaustive. Il ne parle pas des disciples d'Emmaüs, qui ont mangé aussi avec Jésus. Il ne parle pas des deux sœurs qui sont venues au tombeau pour la sépulture. Il n'en parle pas. Pourquoi ? Bah parce que les témoignages des femmes, à cette époque, ça comptait pour du beurre. Et que ce n'était pas crédible. Et donc, il n'en fait même pas mention. Il n'a pas besoin. Les autres évangiles en font mention. Mais là, pour une preuve, il cite des gens qui étaient connus, des gens qu'on pouvait aller interroger pour leur demander « T'as vraiment vu le Christ ressuscité ?»« Ah oui, je peux te dire, et ça a changé ma vie. » Ça a changé ma vie. Alors, est-ce que ça vous semble plausible, tout ça ? Est-ce que ce ne serait pas une hallucination collective ? J'ai déjà en partie répondu, mais je vais vous donner des éléments de réponse que vous pourrez aussi utiliser plus tard. Déjà, une hallucination collective, c'est rarement agréable. C'est plutôt la terreur qui s'installe quand on a une hallucination collective. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, cette soi-disant hallucination procure une grande joie et les fait passer de la tristesse à l'euphorie. Et là, on se dit, tiens, c'est quand même étrange pour une hallucination. Deuxième élément, c'est que les hallucinations, je vais y arriver, je vais boire un coup, hein, quand ça patine comme ça, il faut mettre du lubrifiant. Les hallucinations ne sont pas identiques lorsqu'elles touchent des individus différents à des moments différents. Hein, une hallucination collective, elle a lieu une fois. Là, ce serait quand même très étrange que des gens aient la même hallucination alors que ce n'est pas du tout au même moment et pas du tout au même lieu. Pourtant, ils disent tous la même chose. Ah ben alors, c'est quand même étrange. Ensuite, les hallucinations collectives sont rares. Ben ça, j'ai déjà dit. Donc là, c'est une erreur. C'est moi qui ai fait une erreur de copie. Elles ne touchent jamais tous les sens. Elles vont toucher un sens, mais jamais tous les sens. Or là, on l'a vu, des gens ont pu voir, ont pu manger avec Jésus et ont pu même le toucher et discuter avec lui. Donc on touche quasiment tous les sens ici. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de dire que c'est une hallucination collective. Et enfin, les hallucinations ne transforment pas la vie des gens. Une hallucination, les amis, soit vous finissez à l'asile, soit on vous donne des cachets. En général, soit on vous dit « bon, tu manques de repos, va dormir un peu et ça ira mieux demain ». Mais là, mes amis, cette hallucination, soi-disant, elle a transformé la vie de ces gens. Et notamment celle de Paul, et on va le voir juste après. Regardez ce que dit Anderson. C'est lui, cet homme est un historien anglais. Il a étudié de très près la résurrection de Jésus. Alors c'est un ouvrage qui est en anglais, c'est traduit ici. Regardez ce qu'il dit. « Pensez à l'absurdité psychologique de décrire une bande de poltrons vaincus un jour réfugiés dans une chambre haute, puis quelques jours plus tard transformés en un groupe qu'aucune persécution ne pouvait réduire au silence. » Et alors, chercher à attribuer ce changement dramatique à rien de plus qu'une légende fabriquée de toutes pièces qu'il tentait d'imposer au monde, ceci n'a vraiment aucun sens. Vous voyez, je trouve que c'est assez puissant comme argument. Comment tu peux imaginer ces gens-là ? Ils n'étaient pas fous. Si ça avait été un mensonge, honnêtement. Vous avez déjà été dans une classe, hein, moi ça m'est arrivé, au collège. Il y en a un qui a fait une bêtise. On savait qui c'était. Mais on n'était pas des balances. Donc, quand la prof a demandé qui a fait ça, il avait allumé une cigarette au fond de la classe. Bien sûr, l'odeur est arrivée rapidement au nez du prof. Et alors là, elle a arrêté le cours. Elle a dit « Ok, maintenant, je veux savoir qui a allumé une cigarette dans la classe. » Le mutisme. Personne n'a pipé mot. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas des balances. Ok, personne ne veut se dénoncer. Alors sachez que s'il n'y a pas de dénonciation, non seulement tout le monde va prendre, mais vous ne pourrez plus passer d'examen dans ma matière. Vous aurez une note éliminatoire. Donc ça veut dire que votre diplôme à la fin de l'année,
Oh oh, oh, oh.
Comment vous auriez réagi?
Je suis pas une balance, mais là tu vas un peu loin.
Vous voyez, quand il y a une raison, un motif valable, on est capable de mourir pour une conviction qui est vraie. Mais quand c'est pas valable, moi, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui a craché le morceau. C'était pas moi, j'en suis fier. Mais j'aurais très bien pu le faire. Honnêtement, j'aurais très bien pu lâcher le morceau. Parce que ça n'en valait pas la peine. Vous seriez mort, vous, pour un mensonge? Franchement? Vous seriez mort pour un mensonge? Si Jésus n'est pas ressuscité, vous affirmeriez devant tout le monde? Si, si, il est ressuscité. Ok, bah toi aussi, tu vas mourir comme ton maître. On va te crucifier. Si c'est pas vrai, mes amis, non, en fait, il n'est pas mort. C'était pour faire comme les autres, tu vois. Non, non, là, ils sont tous morts. Sauf l'apôtre Jean. Tous les autres sont morts d'une mort violente. Tous, vous imaginez ? Sans compter les centaines d'autres. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Et le témoignage le plus extraordinaire, il arrive juste après. Je vais passer cette citation ou pas ? Non. Edward Clark. Alors lui, il a aussi un sacré témoignage. C'est un homme qui était juge à la Cour suprême en Grande-Bretagne. Regardez ce qu'il dit. « En tant qu'homme de loi, j'ai étudié en détail les éléments de ce premier jour de la Pâque. Selon moi, les preuves sont concluantes. » C'est un spécialiste de la loi. Hein. Donc, lui, on ne lui fait pas avec les arguments bidons. Hein. Regardez ce qu'il dit. « À bien des reprises, j'ai eu à rendre un verdict à la Cour suprême sur la base de preuves qui n'étaient pas aussi convaincantes. Une preuve précède la conviction et un témoin véridique est toujours sans art et rejette tout effet dramatique. » Et là, c'est la citation que vous avez là. « Le récit de la résurrection des évangiles fait partie de cette classe et en tant qu'homme de loi, je l'accepte sans réserve comme étant le témoignage d'hommes disant la vérité, capable de prouver les faits qu'ils avançaient. » Il n'y a pas de fioriture. Quand l'apôtre Pierre se plante, c'est écrit noir sur blanc. Ça aurait pu être un héros, l'apôtre Pierre. Ben là, pas du tout. Et donc, les faits sont racontés sans dramaturgie, sans... Il n'y a pas de coup de théâtre. Quand nous on raconte une histoire, on voudrait presque l'enjoliver. Ici, les textes sont très sobres. Il n'y a pas d'éléments rajoutés ou extraordinaires, surnaturels qui sont ajoutés. Il y a un élément surnaturel, c'est la résurrection, mais c'est tout. On en parle comme ça. Et ben voilà, il l'a vu, lui aussi, il a dit ça, ils ont mangé. Des trucs tout simples, en fait. On n'essaye pas de gommer tous les petits détails qui ne vont pas et de mettre juste cet élément-là. Et ça, c'est une preuve assez remarquable. Et en fait, la plus grande des transformations, elle a lieu juste après avec l'apôtre Paul. Parce que c'est probablement lui la plus grande preuve que Jésus est ressuscité. C'est que cet homme-là, qui était le pire qu'on puisse avoir, qui persécutait à mort les chrétiens, cet homme-là va les défendre jusqu'à donner sa vie pour eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez, après tout, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Vous voyez, ça, c'était son dada, attraper des chrétiens, les faire jeter en prison et quand il pouvait, même les faire tuer, lapider. Un ennemi du christianisme. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Ce Paul qui prêchait contre le christianisme va changer radicalement et donner un message inverse, opposé. Tous ses copains vont devenir ses ennemis, tous ses ennemis vont devenir ses amis. Le rôle est totalement inversé. Que s'est-il passé, mes amis ? Il a rencontré le Christ ressuscité. C'est la seule explication valable. La seule explication valable. Troisième argument, et c'est le dernier. Sans résurrection, mes amis, on n'a aucune espérance. Aucune. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Et il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement, mes amis, que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, on n'a aucune espérance. Aucune espérance, les amis. Pleurons et rentrons chez nous. Ici, Paul donne 5 conséquences logiques si Christ n'est pas ressuscité. La première, c'est qu'on n'a aucune garantie qu'il y ait une vie après la mort. Or, c'est le message central, et c'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une vie après la mort. Ça, c'est le message du christianisme. Et si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre prototype ne fonctionne pas. Les prémices de la résurrection, ça prouve que si Jésus est ressuscité, il va nous prendre avec lui. Mais s'il n'est pas ressuscité, où on va aller? Vous voyez, c'est terrible. En fait, si Jésus n'est pas ressuscité, il est aussi... Vous pouvez aller voir Mahomet, ou Raël, si vous voulez, ou même Poutine. Ça aura le même résultat, hein, même efficacité. Ça ne sert à rien. Jésus, c'est le seul qui a non seulement annoncé qu'il allait mourir et ressusciter avant, et qu'il l'a fait. Et pour Paul, c'est vraiment un gage pour sa propre résurrection. Il l'a martelé dans le Nouveau Testament. Romains, je cite un verset, mais il y en a au moins une dizaine. Regardez ce qu'il dit. « Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Vous voyez, si Jésus est ressuscité, alors ma vie sera aussi comme la sienne. En fait, c'est les prémices. Jésus, c'est notre prototype. Ce qu'il a vécu, nous allons le vivre après. Deuxième conséquence logique, si Christ n'est pas ressuscité, alors tous les apôtres sont des menteurs et Jésus avec. Je vous ai cité ce texte juste à l'instant oralement, je vous le redis ici plus précisément, Marc 10, 32, verset jusqu'à 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés. Et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. » Il annonce déjà les choses. « Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. » Et 3 jours après, il ressuscitera. Jésus, il annonce tout à l'avance. Mes amis, si je vous disais, écoutez, là, la semaine prochaine, je vais prêcher 30 minutes. Est-ce que vous le croiriez? Vous aurez raison de ne pas le croire, parce que c'est très rare quand j'arrive à prêcher 30 minutes. Mais ça pourrait arriver. Jésus, lui, il annonce sa mort et sa résurrection et tous les détails. Parce qu'il savait exactement tout ce qui allait se passer. Il était Dieu. Il était Dieu. Troisième conséquence logique, si Christ n'est pas ressuscité, la Bible n'est pas digne de confiance, les amis. Ce point il est directement lié au précédent. En fait, vous ne pouvez pas prendre et considérer la Bible comme étant la parole de Dieu, vérité absolue. Si Christ n'est pas ressuscité, alors ça veut dire que la Bible dit des âneries, elle dit des bêtises. Et donc elle n'est pas digne de confiance. Quatrième conséquence, c'est que notre foi est inutile et nos péchés, mes amis, ne sont pas pardonnés. Parce que Jésus nous promettait le pardon et que justement son sacrifice est un sacrifice expiatoire. C'est-à-dire qu'il meurt à notre place. Mais si... Il meurt à notre place et s'il ressuscite, c'est aussi à notre place. Mais si tout ça n'existe pas, on est encore dans nos péchés. On n'est pas pardonné, les amis. La résurrection, c'est la preuve ultime que Dieu a agréé le sacrifice expiatoire de Jésus à la croix. si on ne croit pas ça, on baigne dans nos péchés et on passera une éternité loin de Dieu. Et le dernier, c'est que on est les plus malheureux des hommes. Parce que oui, en fait, on se prive de beaucoup de choses en tant que chrétien. Vous êtes obéissant, n'est-ce pas ? Vous payez vos impôts, plus que la moyenne, parce que vous, vous déclarez tout, j'espère. Vous êtes respectueux, vous vous faites arnaquer régulièrement parce que vous êtes trop bon, trop gentil. Vous ne faites pas certaines choses, vous vous privez de rapports sexuels avant le mariage parce que vous êtes convaincu que vous voulez vous réserver pour votre future épouse. Vous ne vous enivrez pas, vous ne jouez pas les gloutons lors des repas, vous ne faites pas d'orgie. Pourquoi ? Parce que vous respectez ce que disent les Écritures. Mais si les Écritures disent faux, tout ça, ça ne sert à rien. Et donc, finalement, tu es le plus malheureux des hommes. Alors que la joie procure l'obéissance, mais c'est parce qu'on a une espérance. S'il n'y a pas d'espérance, les amis, on est les plus malheureux des hommes. Les plus malheureux des hommes. Allez, je conclue ici avec juste deux versets. Deux versets que j'aime énormément et que j'ai cité il n'y a pas très longtemps, lors d'un enterrement. Mais lors d'un enterrement, on n'est pas obligé de faire la tête. Parce qu'ici, c'est un message glorieux. Regardez ce que Jésus dit au moment où il vient de ressusciter Lazare. D'accord ? Il a ressuscité un mort. Il avait déjà ce pouvoir sur les autres, et ensuite, lui-même va ressusciter. Mais regardez ce qu'il dit. Jésus lui dit, il parle à Marthe ici, « Moi, Marie ou Marthe, je ne sais plus. Bref, il faudrait reprendre le texte. Allez, très, très bonne chose à faire. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Jésus affirme qu'il est la résurrection et la vie, qu'il a non seulement la capacité, mais qu'il est lui-même la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir cette vie éternelle et vivre après cette mort, ou après cette vie, hein, c'est comme vous voulez, mais une fois que vous allez mourir, regardez ce que Jésus dit, il faut croire. Croire. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais. Est-ce qu'on fait quelque chose ? Non. On croit. On place notre confiance. Et la question qui nous est posée ici, qui était posée à cette femme. Elle t'est posée aussi à toi ce matin. Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est la résurrection de Jésus. Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité pour toi, pas pour les autres, pour toi. Mon ami, si tu crois de tout ton cœur, alors Jésus va transformer ta vie. Il va bouleverser ta vie. Il a bouleversé la mienne. Il a bouleversé celle de l'apôtre Paul. Il a bouleversé de celle de tous les apôtres et de milliers de chrétiens et de plein de gens dans cette salle. Si tu places ta confiance dans ce que Jésus a fait à cette croix et en sa résurrection, ta vie peut changer.